Le tailgate podcast, les gars. Et oui, mesdames et messieurs, le tailgate podcast est de retour encore une fois cette semaine. Mon nom est Nicolas Vairo et cette semaine, et non, je ne suis pas accompagné par mon fidèle Nicolas Paco. Aujourd'hui, je suis accompagné seulement pour un deuxième épisode de suite de mon plus grand chum de football, Monsieur Alex Simard.
Ben non, ils sont back.
Donc, pour ceux qui s'inquiètent peut-être de l'absence de notre animateur habituel, Monsieur Nicolas Paco, malheureusement, il a été placé sur la liste des blessés. On devrait avoir un petit update suite à la pratique de demain là, de son entraîneur-chef, à voir s'il serait capable de réintégrer le podcast dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'update, donc son projected pour cette semaine est à zéro.
Est-ce qu'il est sur le IR pour une durée minimale de 4 à 6 semaines?
Ça ferait très mal aux auditeurs du podcast qui aiment beaucoup leur animateur. Rémi? Grosse semaine dans la NFL cette semaine, je pense que c'est une des semaines qui a été les plus
divertissantes.
Le Witching Hour, on va revenir plus tard, mais le Witching Hour était tout qu'un Witching Hour cette semaine. Puis il s'est passé aussi des grosses choses dans la NFL depuis les derniers matchs de la semaine dernière. Notamment, on a appris l'échange de Diontae Johnson qui change d'adresse, donc il passe des Panthers après seulement quelques présences avec eux cette saison et s'en va rejoindre Lamar Velus à Baltimore.
Je dois dire que j'aime beaucoup le move, surtout comme M. Paco me l'a mentionné cette semaine, pour le prix. C'est pour vrai une très belle acquisition là, de milieu de saison pour eux, je pense.
Exact, je pense que c'est un bon route runner aussi. Il m'a amené la diversité dans leur groupe de receveurs qu'ils ont présentement. On sait qu'on a deux bons alliés rapprochés. Likely qui est quasiment un receveur à mes yeux. Deux bons rush runners, déjà Zay Flowers et puis Rashad Bateman. Donc t'amènes Diontae Johnson. Je pense que ça va être une très belle addition. Normalement, il a bien des mains sûres. Là, donc j'aime bien cette addition du côté des Ravens. Niveau fantasy, peut-être être patient avec lui, voir son utilisation. C'est comme je viens de dire, leur groupe de receveurs est déjà quand même bien établi. Donc, à voir peut-être pour cette semaine, être un petit peu plus tard avec Diontae Johnson. Ensuite, je m'en vais du côté d'Indianapolis. Donc, Indianapolis, suite au drôle de commentaire que Anthony Richardson a proféré aux médias après le match de dimanche, où il a mentionné avoir resté sur le sideline, en raison d'une fatigue au troisième quart. Et en début de semaine, cette semaine, on a appris que Joe Flacco sera le quart arrière partant pour les Colts dans leur prochain match. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rémi, à ce niveau-là? Les Colts qui reviennent d'une défaite très serrée contre les Texans cette semaine. Qu'est-ce que penses-tu de ce move-là? Je pense que tu m'as dit avant le podcast que t'en avais long et large à dire.
En fait, je trouve que les gens, ils capotent un petit peu trop avec le fait que le gars avait pris un play-off. Je sais pas toi, mais je pense que j'ai vu une dizaine de podcasts qui disaient « Franchement, quel message que t'envoies à tes fans? T'es un franchise quarterback, t'es genre le futur puis le leader de ton équipe. Ouais. Tu peux pas prendre un play-off, mais tu penses à ça, là. C'est parce que le gars, en ce moment, il a 22 ans, il est très très jeune. Tu le mets comme position de starter où les Colts veulent absolument essayer de faire les play-offs, honnêtement. Moi, je pense qu'il faut être patient avec Anthony, puis même avec qu'est-ce qui s'est passé, puis même s'il ne sera pas partant cette semaine, je vois pas pourquoi on lancerait la serviette pour lui déjà, là, après même pas 2 ans, peut-être une dizaine de matchs joués. Ouais.
Écoute. Effectivement, en plus, je pense que vous avez encore été quelques-uns à nous poser des questions sur notre page Instagram aujourd'hui, et je pense qu'il y a une question qui est à cet effet-là, donc on pourra peut-être voir plus sur le long terme nos opinions sur Anthony Richardson.
Je suis déjà, je pense que je suis allé très très deep pour commencer.
Effectivement.
Je m'excuse si j'ai un peu divagué.
Mais il n'y a pas de problème, on va pouvoir en revenir tantôt quand même rapidement dans ce cas-là. Donc c'est ça, Joe Flacco sera partant du côté des Colts, et puis peut-être un bon petit upgrade niveau PPR pour les receveurs des Colts. On a vu cette saison, lorsque Joe Flacco est à la barre de l'équipe, les receveurs des Colts sont légèrement plus performants en PPR. Et en fantasy, du coup, on va parler d'ailleurs plus tard dans l'épisode des surprises qu'on a cette année en fantasy. Donc j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus qu'est-ce que je pense de l'attaque des Colts avec Joe Flacco. Comme j'ai dit tantôt, Le Witching Hour cette semaine était complètement débile. C'était de tout bord, tout côté, les games à une possession. Une méchante grosse semaine dans la NFL. Fait que je te propose qu'on fasse un petit tour de dessus. On va parler des grosses performances aussi que chaque joueur.
Mais... bien sûr, bien sûr. En plus, plusieurs bottés gagnants. Là,
ouais.
Je pense que dans les dernières secondes du match, c'était vraiment excitant à suivre en temps réel.
Exactement. La semaine dernière, dans le podcast, tu étais là justement, donc je vais en profiter. On avait mentionné qu'on croyait que les Rams pouvaient peut-être causer la surprise jeudi passé avec toutes leurs weapons à l'attaque qui étaient de retour. Et bien, c'est exactement ce qui est arrivé du côté de Los Angeles.
Ce qui devait arriver arriva. Matthew Stafford qui retrouve pour la première fois depuis la semaine 1 ou 2 ses deux meilleurs receveurs en santé. Et il le fait payer absolument la défense des Vikings. Honnêtement, je trouve que c'est une offense qui est beaucoup meilleure qu'on peut. Qui l'ont laissé croire dans les premiers matchs. Là. Mm-hmm. J'ai très hâte de voir la deuxième moitié de saison pour les Rams si on peut essayer d'aller chercher peut-être une wildcard de participation en série.
Effectivement, effectivement. C'est sûr que si les Cooper Kupp et Nacua s'habillent chaque semaine, ça leur donne vraiment des plus grosses chances. D'ailleurs, je vous dis les stat lines rapidement. Puka Nacua qui est impressionnant avec 7 réceptions pour 106 verges à son retour. Également une bonne performance de Kyren Williams. Pour le mentionner là, également par la course, mais les 4 touchés de Matthew Stafford vont retenir l'attention dans ce match-là. On sait que ça finit sur un jeu controversé un petit peu. Sam Darnold qui se fait face mask dans la zone de toucher. Malheureusement, les officiels ont fermé les yeux. Alors, c'est les Rams qui partent de là avec une victoire qui fait beaucoup de bien parce qu'ils deviennent 3 et 4 pour cette saison. Parlant de beauté, tu as mentionné tantôt, j'aimerais parler des Packers de Herb qui ont réussi à gagner à l'inectrivis contre les Jaguars cette semaine par un beauté en fin de match. Qu'est-ce qu'on note notamment de ce match-là? Jordan Love qui est blessé, a quitté la rencontre en deuxième demi, était remplacé par Malik Willis qui a été capable d'aller chercher la victoire. Et puis, donc Jordan Love qu'on pensait peut-être une blessure un peu plus majeure, aurait possiblement des chances de jouer cette semaine contre Détroit. Par contre, à noter que les Packers sont en bail la semaine suivante, donc peut-être qu'on va être prudent et laisser les deux semaines de congé à Jordan Love. Mais Malik Willis a gagné cette saison en tant que carrière. Il prouve encore qu'il est capable de le faire. Donc,
c'est sa deuxième victoire, je pense, de la
je année. Crois que peut-être sa troisième.
Même vraiment, vraiment bien.
Parce que je pense que Jordan Love a manqué au moins deux matchs suite à sa blessure au match à Sao Paulo. Alors, fort match aussi de Josh Jacobs au sol avec deux touchés, 127 verges.
On l'attendait vraiment, cette performance-là de Josh Jacobs, surtout en fantasy. Je pense que sa longue course de 50 verges, la plus longue de la saison. Là.
Effectivement.
Il fait ça à la semaine 8, donc c'est très encourageant pour la suite.
Il a été un gars qui était steady en fantasy cette saison, je dirais, mais pas explosif, pas impressionnant. Mais là, cette semaine, exact. Il l'a prouvé. J'aime bien Romeo Doubs aussi, des Packers, depuis son retour de sa suspension. Là, connaît des très bons moments avec Green Bay. Encore 72 verges par la passe cette semaine. Donc, si il traîne encore sur les waivers de votre côté, puis vous avez un gars que vous n'aimez pas pantoute dans votre club, Romeo Doubs, je regarderai un petit peu de son côté. Là. Il semble avoir pris une bonne chaîne des targets à Green Bay.
Moi, je trouve que ce gars-là a tellement des bonnes mains. Là. C'est pour vrai.
Puis il a tellement un build pour être dominant.
Ouais,
il est grand, il est gros, il est rapide.
C'est ça. Si ce n'était pas des long plays de Reed, on pourrait parler de lui comme peut-être la première cible là, à Love. Là.
Exactement. Je pense que ça s'en vient encore plus serré, plus la saison avance. À noter que du côté des Jaguars, qui encore une fois perdent. Pour se rendre à 2-6, on a perdu notre recrue qui est assez excitante cette année, Brian Thomas Jr., qui devrait être blessé pour 2 à 3 semaines selon les pronostics initiaux. Par contre, finalement, aujourd'hui, Doug Peterson a annoncé qu'il était day-to-day. Donc, il y a possibilité que Brian Thomas soit en uniforme cette semaine. Un autre match qui finit par un botté, le grand retour de Tua Tagovailoa. Hey, ça a-tu fait du bien à l'attaque des Dolphins? Le retour de Tua.
Ça l'a fait du bien, mais en fin de match, on a eu plusieurs bévues là, de leur côté, ce qui leur a coûté. Honnêtement, une victoire là, qui leur a slipped in complètement. C'est eux qui ont perdu la partie. Là.
Ouais, exactement. Puis là, ça leur fait très mal cette victoire-là. Donc, ils tombent à 2-5. Heureusement que ça me permet de faire le parallèle à un autre match, mais heureusement que les Pats ont battu les Jets. Alors, on se retrouve à 3 équipes à 2 victoires dans la division S de l'AFC. Les Bills, c'est luck, là, rendu là, ça, ça pas...
J'aurais jamais, en passant, là, j'aurais jamais cru dire ça en début de saison en voyant leur alignement partant à l'avant. Là.
Ouais.
Pour vrai, dans leur offensive,
autant les Jets que les Dolphins.
Je veux dire, je n'y croyais vraiment pas à l'offensive des Bills cette année. Finalement, ils m'ont fait mentir.
Ouais. Puis là, en plus, on a parlé de l'avenue d'Amari Cooper. Ça les rend encore plus, plus multifonctionnel, je pourrais dire. Leur attaque est encore plus difficile à interpréter pour les autres équipes. Donc, ouais, comme je viens de dire, les Patriots qui remportent une victoire importante à la maison Gillette Stadium contre les Jets. Les Jets, je pense que vous le savez, c'est le chaos présentement. Je sais pas comment ils vont venir de ça. Là, ils jouent demain soir en prime time contre Houston. Houston a pas ses deux meilleurs targets pour cette semaine et potentiellement pour une bonne période de temps. Les Jets, je pense que ça, c'est vraiment un must-win cette semaine. Si tu ne wins pas ça contre les Texans, iiii! Puis la cote doit avantager les Texans en plus parce que c'est une méchante défense de football. Fait que ça va être un bon match. On va pouvoir en discuter aussi quand on va faire une petite preview de la semaine prochaine.
En passant, est-ce que tu veux que je te nomme contre qui les Jets ont perdu cette saison?
Ouais, vas-y.
Juste là, pendant que j'y suis. Là.
Oui, vas-y.
Donc, les Jets ont perdu contre les Niners, fair enough. Ont perdu ensuite contre les Broncos, contre les Vikings, contre les Bills, contre les Steelers. Fait que, OK, la défaite contre les Patriots est un petit peu gênante, mais si tu regardes avant ça, il y avait quand même une
à part
grosse...
les Broncos. Ben, les Broncos, ouais, ont quand même une bonne fiche.
Ben, les Broncos ont quand même 5 victoires, je pense.
Ouais, c'est ça.
Fait que, en fait, ce que j'en conclue, c'est que moi, je pense pas qu'on devrait encore les éliminer d'une victoire de la division. Là. C'est sûr que ça va être difficile,
Bills,
ils ont plus de marge d'erreur. Là, mais...
C'est ça, mais dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, je pense qu'ils vont se battre pour un wildcard spot cette saison.
Fort probablement.
Sur ce, on va profiter de l'absence de M. Paco pour beurrer ses Ravens dans le podcast. Jameis Winston, je sais que tu l'aimes bien comme corps arrière en général, mais c'est un gunslinger et il vient de battre en fin de semaine les Ravens par la marque de 29-24. Grosse victoire des Browns et Deshaun Watson était définitivement le problème.
J'ai adoré cette partie. Winston, quel vent de changement, man. Ça fait tellement du bien, enfin, de voir un jeu par la passe bien développé du côté des Browns. Une chose qu'on n'avait pas vu, honnêtement, depuis la saison dernière. Là.
Ouais.
Honnêtement, j'ai vraiment trouvé que l'attaque avait quand même du chien, tu sais. Puis on a vu aussi le Cedric Tillman.
Oui, Cedric Tillman, il faut pas oublier de le mentionner, qui a un bon match, presque sans verge, avec 99 à la passe et 2 touchés.
Puis quand que tu reçois en passant ce nombre de targets-là là, dans une game, Nick, tu me diras, je pense, c'est combien? Je pense que c'est 9-10.
7 réceptions, donc je sais pas combien de targets, ouais, là.
C'est
mais
ça, ben...
lui et Elijah Moore ont 7 et 8 réceptions. Okay. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça du côté des Browns.
Ça veut dire que ces gars-là ont réussi à être open contre la défense des
Ravens. C'est sûr que la défense des Ravens était 102 gros cornerbacks en fin de semaine.
Ah, ok, ça peut un peu.
Mais tout de même, on voit l'habilité à Jameis Winston à distribuer le bâton.
Le bâton.
Le bâton. Il distribue le bâton. Et surtout dans les zones profondes. Donc, ouais, grosse perfo des Browns et les Ravens qui en échappent une, d'après moi, qui aurait dû être dans leur poche.
Surtout avec le fait que les Bengals et les Steelers vont quand même bien en ce moment.
Ouais.
Et ça fait vraiment mal d'aller perdre contre les Browns.
Parlant des Bengals, par contre, ils se sont fait beurrer à la maison en fin de semaine.
Complètement lessivés.
Par les Eagles. À noter dans cette victoire des Eagles, une bonne performance des deux receveurs de Philadelphie, leurs deux alpha, comme j'aime les appeler, dans Devante Smith et Jay Brown, qui ont tous les deux 85 et 84 verges par la passe, mais également une bonne performance de Saquon Barkley, qui franchit le cap des 100 verges au sol, encore une fois, et Jalen Hurts, avec les 3 touchés par touche-push.
Hey, je veux vraiment pas dire n'importe quoi, là, mais pour vrai, Jalen Hurts, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai vu un carrière marquer 3 touchés par la course dans une game.
Ouais, c'est sûr que dans...
Je me demande si c'est déjà arrivé dans les années récentes de football, peut-être à part Lamar Jackson une fois, ou Josh Allen une fois.
Ouais,
là,
ouais c'est vrai. C'est sûr que les circonstances font qu'avec le touche-push, c'est assez facile. Là. C'est pas une stratégie qui est adoptée par toutes les équipes, mais... C'est vrai, c'était à noter. Puis en fantasy, je pense que c'est le match que ceux qui ont drafté Jalen Hurts s'attendaient. Enfin, le match où il rentre la balle dans le touchdown lui-même à toutes les opportunités qu'ils ont. Alors, ouais,
35 points, je pense, sa partie fantasy.
Je pense que oui, ça c'était autour de ça, parce qu'il y a aussi une passe de toucher.
Il went nuclear.
Went nuclear this week. Texans, on a parlé tantôt, on gagnait contre les Colts. Une victoire peut-être un petit peu plus difficile qu'on aurait pensé, plus serrée. À noter la perte de Stephon Diggs dans ce match-là.
Hey, ça fait tellement mal, ça, pour Stroud. Hein. Yeah. Perdu Diggs, perdu Nico Collins. Mais là, qui devrait revenir dans 2 ou 3 semaines,
ouais,
je pense.
En tout cas, c'était...
Hey, mais ça fait vraiment mal parce qu'en ce moment, ils ont vraiment des parties serrées. Puis maudit qu'ils auraient besoin de leurs 2 meilleurs wide-outs. C'est horrible là, en ce moment.
Effectivement. Donc, Joe Mixon, si vous l'avez en fantasy, vous êtes chanceux. Je pense qu'il va avoir des grosses semaines. Tank Dell, enfin, est un solide flex start si c'est pas wide receiver 2 en l'absence des deux autres.
On accord.
À voir pour la suite. Les Lions qui ont une victoire convaincante également contre Tennessee. On a vu Sam Laporta, enfin, qui s'est réveillé un petit peu du côté des Lions. Mais dans la victoire, tout le monde s'est vraiment éclaté en fin de semaine. Particulièrement, Jahmyr Gibbs avec 127 verges au sol et un touché. Donc, les Lions qui ont un match prime time cette semaine. On va vous en parler plus tard, mais une solide victoire là, de leur côté. Les Falcons qui ont tenu le coup contre les Bucks. Baker Mayfield qui s'est bien battu dans l'absence de Chris Godwin et Mike Evans, je trouve. Des grosses performances de Kate Otten dans la défaite.
Avec... Lui, c'est son année là, qui blow off. Là.
Ouais.
C'est pour vrai, je me demande s'il n'est pas top 5 en verge par la passe dans les tight ends cette année.
Il faudrait que j'aille voir là, les stats exacts de Kate Otten niveau fantasy, si tu peux me chercher ça pendant ce temps-là. Je l'ai sous les yeux. Donc, dans le fond, il est le 6e Titan Fantasy PPR cette saison avec un average point de 11.
Puis moi j'ai les stats, on est rendu quand même à 344 verges par la réception pour un Titan, c'est quand même beaucoup avec 3 touchés. Ouais. 3 tallies.
Depuis la week 4, aucun match en bas de 7,5 points. Ce qui pour un Titan, ça se prend super bien.
Ben oui.
Puis notamment contre Atlanta en fin de semaine, 29,1 points de son côté. Mm. Et Kyle Pitts de l'autre côté, parce que c'était National Titan Day, fait que pourquoi pas en parler là. Tout autour de la NFL, c'était les Titans qui scoraient de partout. 2 touchés pour Kyle Pitts. Est-ce que c'est enfin le réveil de Kyle Pitts qu'on attendait à Fantasy?
J'allais même en parler un peu plus tard.
Oh, bon, je te laisse développer un peu plus tard dans le match.
Excellent.
Un peu plus tard dans le match, qu'est-ce que je viens de dire là?
Rendu en troisième body.
Bonne performance de Bijan encore et Darnell Mooney. Par la passe, Drake London un petit peu moins sollicité dans ce match-là, mais une victoire importante également du côté des Falcons à la division.
Et avec ça, les Falcons sont 5-3, mesdames et messieurs. Mm. J'avais prédit en début de saison qu'ils seraient une playoff team. D'après moi, ils ont certainement au moins 10 wins cette année.
En plus, Rémi aborde présentement un beau gilet de collection. Un gilet des Falcons que je me suis procuré à l'âge de 7 ans de Michael Vick. Un jour, j'ai appris de mes parents que je ne pouvais plus le mettre à l'école. Je me demande bien pourquoi. En tout cas, il est revenu dans mon appartement comme pièce de collection. Le bon vieux gilet de Michael Vick. Donc, je suis également très content du retour des Falcons cette année. Dans le Relevancy NFL. Je trouve qu'ils sont quand même frais.
Mm-hmm, absolument. En parlant de Michael Vick, il ne doit pas avoir des bons moments en ce moment en voyant Lamar Jackson briser tous ses records au vieux de 25 ans. Il doit être complètement off. Là.
Mike Vick, il est en train de bêter sur des combats de chien.
Et peut-être que oui.
Moi, c'est pas lui qui les a regardés cette fois-là.
Mike Vick est une légende du football, mais Lamar Jackson, en ce moment, est en train de s'établir comme le meilleur carrière porteur de ballon de tous les temps.
Le titre de l'épisode, ça va genre être Michael Vick. On aurait pas le choix de mettre le titre en rapport à Michael Vick. Ok, là, on est en train de déraper de notre côté. Les Chargers qui battent les Saints de leur côté. Les Saints qui avaient commencé la saison, je vous rappelle, 2-0. Et on avait dit au troisième épisode, est-ce que les Saints sont des contenders? Et bien, ils ont perdu tous leurs matchs depuis ce moment. Donc, je sais pas si c'est le jinx du podcast qui se fait sentir, mais les Saints, ça va vraiment pas bien depuis la perte de Derek Carr. Ils devraient revenir la semaine prochaine, toutefois. Donc, une bonne nouvelle de leur côté.
Ben, c'est parce que tu demandes à une offensive qui était tellement bien avec Carr, tu leur demandes soudainement de s'adapter au jeu d'un corps arrière rookie. Pour vrai, c'est vraiment difficile.
Rookie qui a pas le meilleur bras,
c'est très difficile de gagner les. Ben oui, c'est ça.
Mais Chris Olave a quand même eu 100 verges dans ce match-là.
Avec Shahid qui est mort.
Ouais, Shahid qui est out. Et puis,
out for the year.
Je suis Ladd McConkey. Gros match du côté des Chargers.
Ladd McConkey Kong.
Ouais. C'est un bon surnom quand même, ça pourrait être ça. Ladd McConkey Kong. S'il jouait dans l'univers Mario. Bon, là, c'est sacrément. Ça part de tout bord, tout côté, ce podcast-là. Les Bills qui affrontaient les Seahawks, on vous avait parlé de ce match-up-là la semaine dernière comme un des match-ups qu'on voulait, qu'on allait regarder de près. Grosse performance de Josh Allen à Seattle, en plus. Et James Cook, qu'on l'avait un petit peu d'out la semaine passée, on se disait justement que ses performances étaient un petit peu moins convaincantes. Deux touchés, 111 verges par la course, très bonne performance de son côté. Et Shakir, enfin le match qu'on attendait un peu de son côté en tant que wide receiver 1, je mets ça en parenthèse parce qu'il joue slot, là, mais Keon Coleman, avec ses gros jeux, a stretch l'attaque dans ce match-là.
Pour les gens fantasy là, et qui nous écoutent, j'aurais un petit conseil à donner, moi, par rapport au wide-out des Bills. En ce moment, je pense que c'est une des questions les plus énigmatiques en PPR. T'sais, qui va avoir vraiment le rôle de wide-out 1 de Josh Allen? En ce moment, pour vous aider un peu, là, je compare ça vraiment avec, avec les trois receveurs partants là, des Packers. Je pense que ça va être week to week to week. C'est un nouveau gars qui va prendre le lead, qui va avoir 2-3 catchs de plus avec le TD qui va faire la différence. Vraiment dur pour moi, mettons, de start Amari, Coleman ou Shakir comme Wild 2. En flex, ils ont un cas à faire pour eux, mais t'sais, dans une 8 à 10 mid-league, je pense pas qu'ils ont un poste de partant encore. Là.
Exact.
0-0.
Donc, une grosse victoire de ce côté-là. Dernier match que je veux parler plus en profondeur. Ben, en fait, pas plus en profondeur, mais les Commanders qui ont gagné sur Hail Mary, vous l'avez tous vu. Les Commanders ont tellement du bon juju cette année, ça va bien. Il monte à 6-2. Et puis, pour faire un final du tour, là, on a eu les Chiefs qui ont eu gagné encore une game série contre les Raiders, comme on l'avait dit la semaine passée. Les Broncos qui ont servi une volée aux Panthers. Grosse performance de Bo Nix, notamment à Fantasy également, avec 4 touchés au total. Les Niners qui tiennent bon contre les Cowboys en fin de match. Grosse performance de CeeDee Lamb. Et je pense que McCaffrey, on a hâte qu'il revienne du côté des Niners. Mais on gagne quand même contre les Cowboys. Et mes Giants... On a Daniel Jones, je vais arrêter là. Là, je commence à être bien done avec mon bon vieux Danny. Là.
Ben, c'est que surtout de, t'sais,
de. Deux fois en fin de match, on a des chances d'égaliser.
Ben oui.
Puis les deux fois, un fumble et l'interception.
C'est puis là, on a Russell Wilson qui est à sa troisième équipe en 4 ans, qui se pointe contre New York. À son deuxième match comme partant contre les Giants.
Puis il a lancé des grosses balles dans le bucket toute la soirée.
Il sort les meilleures balles toute la soirée que Daniel Jones, le corps résident de New York depuis minimum 5 ans.
6 ans. C'est ça, ah, sixième saison.
Depuis 6 ans, honnêtement.
Depuis 6 ans, ouais. Depuis les 6 années qu'il est starter, il y a une saison où qu'on a pas eu, où qu'on a eu plus que 2 victoires après 8 matchs.
La face que je viens de faire.
C'est terrible, ouais, vous auriez dû voir la face à Rémi.
C'est dans des matchs comme ça qu'on sépare les vrais hommes des garçons. Hein.
C'est vrai qu'il a l'air d'un kid en plus. Mais il a montré un peu d'émotion lundi soir, donc j'étais content de le voir un peu en tabarnak.
J'ai vu ça sur sa conférence de presse.
Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte qu'on draft un nouveau QB dans le prochain draft.
Shedder Sanders.
Non. Non. Je me rapproche plus de la maison pour vous faire un petit update sur le RSEQ, donc la saison régulière qui a pris fin la semaine dernière. Les Rouges et Or de l'Université Laval qui finissent champions de la saison régulière suite à une victoire de 29-0 contre Sherbrooke. Donc ça confirme que la Coupe Dunsmore sera à Québec dans l'éventualité où le Rouges et Or bat Concordia ce samedi. À midi au stade du Peps, je crois que plusieurs de nos auditeurs vous y trouveront, donc je vous souhaite un bon match et un bon tailgate surtout. Je pourrais pas être présent malheureusement, je vais partir dans le Wynn le soir, donc je vais ménager le foie en avant-midi avant d'aller là-bas.
J'aimerais savoir c'est quoi ton déguisement cette année.
je me suis déguisé en Brennan Huff. Pour ceux qui connaissent pas le nom, là, c'est un des deux demi-frères dans le film Demi-frères du même nom avec Will Ferrell. Donc c'est ça, je t'habille un peu en colon. Puis je mets ça au travail demain, j'ai hâte de voir la réaction de mes collègues. L'autre demi-finale du RSEQ, ça va être les Carabins qui vont affronter McGill. Donc on s'attend normalement à une Coupe Dunsmore entre Québec et Montréal. Mais on pourrait avoir une surprise, on ne sait jamais. Donc du bon football à regarder en fin de semaine. Et parlant de football qui se joue le samedi, côté NCAA, encore un bon match la semaine passée. J'aime ça vous en parler à toutes les semaines de Ashton Genty. Qui a eu encore un bon match la semaine passée, pardon, avec plus de 130 verges au sol et un touché. Oregon avec une victoire dominante en fin de semaine, de ce que je retiens, pour rester solidement au poste de numéro 1 dans la nation. Et je vous avais parlé également du match-up de la Floride entre Miami et FSU, que The U of Miami ont gagné aisément avec sous leur carrière Cam Ward. En fin de semaine, on a des excellents matchs qui arrivent à NCAA. Samedi à midi, on a l'équipe classée numéro 3 qui affronteront l'équipe numéro 4. Je ne sais pas parler. Ohio State qui affronte Penn State samedi. Donc ça, c'est un excellent match dès midi pour ceux qui veulent s'effoirer devant autre chose que du football à 3 essais. Après ça, on a un bon match-up dans l'ACC, justement de Miami avec Cam Ward, qui est sans aucun doute presque maintenant, à ce moment-ci de la saison, le premier carrière qui va être repêché l'an prochain. Donc ça, ça va être un bon match. Et on a aussi Oregon, dont je vais vous parler numéro 1, qui vont affronter l'Université du Michigan, qui sont unranked cette semaine à 3h30. Donc ça, ça va être un très beau samedi de football.
J'ai une question pour l'expert NCAA du podcast.
Oui, ben c'est M. Croteau, là. Vas-y. Monsieur, je vais répondre à la meilleure de mes capacités.
J'aimerais bien savoir, ça fait plusieurs personnes avec qui j'ai des conversations sur Ashton Genty. J'aimerais savoir s'il jouait dans la SAC contre des grosses défenses de D1, dans les meilleurs clubs de la ligue, est-ce qu'il y aurait autant de succès ou en ce moment on joue contre des défenses poreuses?
Selon moi, je crois pas que ses stats pourraient être autant impressionnantes, parce qu'en ce moment c'est plus qu'impressionnant, c'est aberrant. Quoi, c'est presque du jamais vu.
High school shit.
Là, donc, c'est juste pour te dire, il est rendu cette saison là à 1376 verges, 18
en 9 matchs.
En 9 matchs. Avec une moyenne par la course de 8,7 verges par course. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il serait un excellent running back, potentiellement peut-être un top 2 round pick. Dans les deux premières rondes. Là, je pense que finalement, cette année, là, il vient de se solidifier comme absolument un first round pick. Et puis là, ça va être à voir si ça va être considéré aussi au niveau de son rang au repêchage de la NFL. Mais définitivement que ça serait. Il y aurait peut-être un petit peu plus d'adversité. Mais je pense qu'il serait quand même un des meilleurs running backs de la nation.
Moi aussi, je pense. Mais tu sais, quand t'as une carrière, pas une carrière, mais une saison de cette trempe-là, là, honnêtement, ça va tellement mettre de la pression sur lui. Puis tout le monde, ils vont se dire, hey, lui, c'est supposé être le meilleur RB des 15 dernières années. Mais tu sais, faut quand même qu'on garde en tête.
Ça me fait penser un peu quand Saquon était à Penn State et qu'ils ont drafté numéro 2 overall. Et vraiment, des running backs, ça ne sort pas aussitôt que ça.
Non, vraiment pas.
Même chose un peu avec Zeke, quand il sortait de Ohio State. Donc, ça va être bon à suivre, ça. Mais définitivement, que l'Heisman est à sa portée ou sinon il est vraiment le frontrunner en ce moment.
Mais j'ai hâte de le voir jouer contre des vrais hommes.
Yes! On retourne dans le football avec TSL. Cette semaine, on a premièrement, demain soir, comme on a parlé un peu tantôt, Texans contre Jets. La cote, elle favorise. Est quand même favorisante pour les Jets, je pense. Qu'on a une bonne... Si jamais demain, il y a du monde qui veut le nuke les Jets, je pense que. En fait, je pense qu'ils sont peut-être favoris.
Mais en ce moment, là, les Texans, ils sont underdog à 2,10 de cote.
C'est ça.
Wake up, tout le monde. Est-ce que vous voulez faire du cash? C'est le pari demain qui va rentrer. Les Texans, c'est sûr qu'ils battent les Jets complètement désespérés en ce moment. Il n'y a rien qui fonctionne de leur côté. Puis je vois pas comment ça pourrait changer. Hey, je mets tout mon argent, là, tout mon fonds de pension, tout sur les Texans de Houston demain.
Ils sont scellés sur Houston.
À 2,10. Je ne peux pas croire qu'Aaron Rodgers va avoir du succès contre la bonne défense des Texans. Je n'y crois pas du tout.
Ensuite, on a un bon match-up dans l'AFC East aussi. On a parlé un peu de cette division-là tantôt. Mais les Dolphins qui affrontent les Bills à Buffalo. Miami, c'est un must-win ce match-là qui se retrouve maintenant à 2-5.
On peut pas perdre ça, là.
C'est un must-win. Mais Colin, que j'y crois pas, on dirait.
Moi non plus.
Parce qu'avec ce qu'on a vu des Bills les dernières semaines, ça va être assez difficile pour les Dolphins. Mais c'est toujours des bons match-ups.
Est-ce que tu connais la cote?
Shoot-moi donc ça.
Les Bills, 1,37. On est certain qu'ils vont gagner contre Miami. Ouais. On est absolument certain.
C'est ça. Il n'y a rien qui va du côté de Miami, comme on a dit un petit peu plus tôt dans le podcast. L'autre match-up qui me tombe dans l'œil rapidement, j'aime bien Cowboys-Falcons. Je pense que ça va être un match-up où le over pourrait être in play dans ce, dans ce match-up-là. J'ai vraiment l'impression qu'il va scorer des points. Là. Vraiment l'impression qu'il va scorer des points dans ce match-là. Puis Bijan, je l'ai en fantasy. Je sais pas si tu l'as dans une de tes ligues, là. Mais contre la pire défense de la ligue cette saison, je sais pas si les chiffres le disent, là, disent comme ça, mais c'est pas mal le consensus autour de la ligue que les Cowboys sont pas capables d'arrêter la course cette saison. J'ai vraiment hâte de voir ce que Bijan peut faire.
He's going nuclear.
Après ça, les Raiders affrontent les Bengals et Joe Burrow a mentionné aujourd'hui que c'était un match-up qu'il ne pouvait absolument pas échapper. Donc j'ai bien hâte de voir si les Raiders pourront causer la surprise et sortir un bon match contre les Bengals cette semaine.
Aucune chance, je pense. Je peux pas croire que. Non. Moi, je pense que les Bengals, ils vont partir sur une win streak dès que possible.
Ok. J'aime bien.
C'est mon take.
Ensuite, les Broncos, qui nous surprennent cette année, justement, affronteront les Ravens de la même fiche. Donc, deux équipes 5-3. Ça va être un très bon match à Baltimore. C'est à 13h dimanche. Mais hâte de voir, justement, à quel point Diontae Johnson va être impliqué cette semaine dans l'attaque des Ravens. Je m'attends pas à grand chose, honnêtement. Mais j'ai quand même hâte de voir parce que je pense vraiment que c'est un bon fit. Cardinals affronte les Bears et on a appris cette semaine aussi que Kyler Murray est capable de gagner un match de football suite à la sortie de Call of Duty.
C'est la première fois en plusieurs années qu'on peut dire
c'est
ça.
C'est la première fois depuis plusieurs éditions de Call of Duty que Kyler Murray a des victoires directement la semaine de la sortie du jeu.
Hey, finalement, là, les Cards, là, ils sont vraiment là hein, cette année. C'est quand même un bon club. On n'arrête pas de dire que c'est les Seahawks qui...
Ouais, mais grosse victoire là, contre les Dolphins, ça leur a fait du bien.
C'est ça, genre...
Leur attaque, quand c'est pas... Ils ont quand même des weapons, tu regardes ça. McBride,
oui, vraiment.
Très bon.
Honnêtement, Nick, je profite pour en parler. Ouais, je pense que la NFC West va être peut-être la division la plus difficile à gagner cette année avec celle Ravens, Bengals et
la NFC.
C'est ça, là. La NFC West, pour vrai, on a les Cards à 4-4, les Niners à 4-4, les Seahawks à 4-4 et les Rams à 3-4 qui viennent de retrouver leurs deux meilleurs receveurs.
C'est-tu qui les Rams affrontent en fait ça?
C'est qui?
Les Seahawks.
Et ça va être une immense
partie. À 16h25 cette semaine. Ça, c'est vraiment une game que je saurais pas quoi bêter, c'est celle-là. Hein.
C'est vraiment une super bonne game. Mais... En ce moment, les Rams sont favoris à 1.8.
À 1.8?
Les Seahawks à 2.05.
Moi, j'aurais dit les Rams, je pense. Leur D-line, comme j'ai mentionné, j'ai parlé un peu de leur D-line dans la dernière semaine dans le podcast, mais à toutes les games que je regarde.
Ils sont vraiment bons, là.
Ouais, ils disruptent l'attaque, puis on a vu les Seahawks avoir des gros problèmes avec leur ligne offensive cette saison. Donc, je pense que je vais mettre de l'argent sur les Rams en fin de semaine. Les Jags vont essayer de rebondir contre les Eagles qui, eux, tentent de continuer à rejoindre les Commanders au top de la division de la NFC East dans un match-up à 16h05 à Philadelphie. Et le dimanche, on a aussi un excellent match-up, pardon. Le dimanche en après-midi, deux divisions, alors que les Lions seront à Lambeau Field. Ça va être tout un match dans cette division-là. Là, comme je l'ai mentionné tantôt, on est incertain de la présence de Jordan Love. Il n'a pas encore pratiqué cette semaine. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être depuis le début de la saison, comme Carrière Fantasy, vous avez sûrement déjà un backup sur le banc ou ce qui a manqué qu'il y ait des matchs en début de saison. Mais peut-être à recommencer à penser c'est quoi votre plan B pour cette semaine. Et les Lions qui vont continuer à essayer de rouler sur leur opponents, comme la semaine dernière. Mais je pense qu'ils affrontent une grosse défense des Packers avec une belle identité. Ça fait tout qu'un match de football. Tant qu'à moi, je pense que c'est le match-up de la semaine à regarder. Finalement, on finit avec le dernier match prime time. T'es Chiefs, mon Rams, qui seront visités par les Bucks.
Vraiment, vraiment hâte de jouer contre Baker. Je vais être collé à mon écran.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai eu une petite frousse cette semaine concernant cette partie. Alors, j'avais oublié que c'était la fête d'une personne importante dans ma vie le dimanche soir. Donc, il y a un souper d'amis qui a été planifié pour sa fête. Et là, j'étais comme, oh, j'ai juste vérifié pour être sûr que les Chiefs ne jouent pas le dimanche soir.
Avant de confirmer ta présence, je voulais dire que les Chiefs ne jouent pas en prime time.
Et là, finalement, j'ai vu qu'ils jouaient lundi contre les Bucks. J'étais, let's go, je vais pouvoir aller au souper et écouter la game le lendemain.
Bouh!
Bouillard! Kawabunga!
Hein? ça c'était pas scripté les gars pour ça, on se l'était même pas dit. Waouh, quel bijou, quel, la beauté du live. fait que on va enchaîner sur les questions qui nous ont été posées sur l'Instagram aujourd'hui. Et puis après ça, on a un petit, on va faire un petit jeu slash discussion sur des joueurs en fantasy. Monsieur Félix Picard nous a posé comme question cette semaine, est-ce que selon vous, c'est la fin de Anthony Richardson à Indianapolis? On a un peu développé là-dessus tantôt.
Déjà donné mon punch là.
De mon côté, je pense un peu comme Rémi, mentionné l'âge notamment 22 ans d'Anthony Richardson.
22 ans les gars, il est 3 ans plus jeune que vous pour la majorité des gens qui nous écoutent là.
Puis il a pas beaucoup joué l'an passé, là. C'est pas comme si c'était sa deuxième saison complète dans la NFL. Il a été blessé la majorité de la dernière saison. C'est sûr que moi, au niveau de son bras, sa lecture des attaques, des défenses, pardon, il y a vraiment place à l'amélioration. On voit justement, ça paraît pour, dans les stats des receveurs des Colts en fantasy, à quel point il se compte plus quand c'est Joe Flacco, bien plus capable de read, distribuer la balle. Mais Anthony Richardson est juste un weapon. Puis on le voit avec Kyle Pitts, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Puis surtout la position de carrière. Si tu regardes Geno Smith, Baker Mayfield, là, on dirait qu'ils sont dans leur prime, là. Ça fait genre 7 ans qu'ils sont dans la ligue, même plus que ça. C'est comme s'ils commenceraient leur prime live.
Ben Nick, dis-moi donc, à quel âge tu penses que Jordan Love a commencé comme starter?
26.
Bon.
C'était ça?
Je vais aller voir, là.
On va aller vérifier, mais d'après moi, il a sell-out 2 ans derrière Rodgers?
2 ou 3 même, je pense. En ce moment, là, Love a... Oh non, man. Love a 25. Fait que Love a commencé à starter à 24. En début de saison 24 ou fin 23, ouais, me semble.
Ça veut dire que...
Fait que là, en ce moment, t'as Anthony qui a 22 ans. Il a manqué toute sa première saison. Il est rendu à même pas 10 matchs de jouer comme partant là, dans la ligue. C'est vraiment une question, ouais, de patience pour lui. Puis au pire, l'an prochain, ils vont signer un vétéran devant lui, puis il va encore sell out une autre saison, puis il va revenir après ça pour essayer de prouver de quoi qu'il est capable. Dernier exemple, Justin Fields. Ouais. Ça faisait 3 ans qu'on disait qu'il était pourri avec les Bears. Ça en vient un peu plus mature avec les Steelers. Ça en va en gagner 4 pour les Steelers en début de saison. Boom!
Tout à fait. Donc, non. Mais c'est définitif que Anthony Richardson n'est pas le weapon qu'on pense en fantasy cette
non,
année.
Non, vraiment pas pour le fantasy.
Notamment, tu l'as drafté dans 5 ou 6e ronde cette année dans notre main league.
En 6e, puis je l'ai droppé hier. Le joueur le plus droppé cette semaine est passé de 99% ownership à 55%, je pense.
Ça fait mal.
Sur ESPN, je suis pas certain, là, mais...
Ouais, mais ça doit ressembler à ça, surtout quand tu te fais bench, puis qu'il n'y a pas beaucoup de place sur notre banc fantasy.
Ouais, c'est ça, puis il y a un bye week en plus là, qui s'en vient, fait qu'à un moment donné, je pense que personne ne l'aurait restart.
Ouais, c'est ça, on l'a ramassé. Ensuite, on avait une question de M. James Lacker qui lui demandait qui aurait le first pick pour le prochain repêchage de la NFL. Ses 4 suggestions, c'était les Panthers, les Broncos, les Panthers, les Jaguars, les Giants. Je pense que c'est juste ces 3-là. J'ai pas la question sous les yeux, malheureusement, en l'absence de M. Paco. Mais ton choix était, de mon côté, c'est les Panthers. C'est ceux qui ont le premier choix overall. On a vu les gars sortir du field la semaine passée, ils se sont fait écraser par les Broncos. Au moins, on a fait 14 points, mais ça n'a pas de bon sens. Ils s'en vont nulle part, pas d'identité. D'identité Johnson s'en va. Là, la question, c'est, vont-ils repêcher un carrière?
Moi, je pense que c'est pas le moment encore. On va sûrement signer un genre de Flacco, là.
Ouais, un genre de semi-vétéran. Dans peut-être que Tom, Daniel peut-être Jones pourrait aller, là.
Ouais, peut-être que...
relancer leur franchise.
Daniel Jones, l'homme à 50 millions.
Qui va se faire cut après la saison. Mais non, James, pour répondre à ta question, je crois que les Jags vont aller chercher quelques-unes d'ici la fin de la saison.
Ouais, ouais.
Tout comme les Giants, dont contre les Ravens le 15 décembre, alors qu'on sera sur place. Alors, non, définitivement, je pense que les Panthers auront le premier choix de l'encamp 2025.
Puis j'ai regardé la fin de saison, là, les Jags, là, on a quand même plusieurs gros match-up. Hein. Dans les prochains matchs, là, les 3 prochains clubs compagnent Eagles, Vikings, Lyon. Boom, boom, boom. Ouais. Ensuite, on a les Texans. Puis après ça, on s'en va jouer contre les Titans, les Jets, les Raiders, les Titans puis les Colts. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait en chercher peut-être 3 là,
à la fin de l'année.
Peut-être une des 4 prochaines toughs, là. Mais au moins, ils finiront pas avec le first pick. Là. D'après moi, vous allez finir avec un 5-win, 6-win.
Ouais. Exact.
Selon mon analyse détaillée d'expert.
Merci pour l'analyse détaillée, René.
De rien, Herb.
Alors là, on va passer à la prochaine, au petit jeu de la semaine. On va terminer avec ça pour cet épisode. J'ai demandé à Rémi, et j'ai fait le même exercice, de nommer quelques joueurs entre 1 et 5 qui sont des surprises ou qui excèdent les expectations cette année en fantasy. Des joueurs qu'on ne s'attend pas à voir toujours dans les line-up, finalement, qui sont des starters à chaque semaine. Donc, il y a des belles surprises. Je ne sais pas si tu en avais un pour commencer, que tu voulais qu'on va faire un petit tour rapidement, juste de la situation dans laquelle ce joueur se trouve présentement.
Dans le fond, un gars qui m'a surpris, là.
Ouais.
Scary Terry.
Scary Terry. Donc, Terry McLaurin. Ouais.
Je pense que j'avais dit en début de saison que lui et Drake London avaient vu leur début de carrière être bousillé par des quarts arrière de peu d'expérience et qui n'étaient pas très bons.
Ouais.
Malheureusement, et là, enfin, on donne un quart arrière qui dépasse toutes les attentes et McLaurin feast en ce moment. On voit vraiment qu'il peut être un top 10 wideout dans cette ligue-là. Avec un bon corps arrière, pour vrai, là, c'est des saisons de 1000 verges selon moi.
Et il doit tellement être content d'avoir un corps arrière qui est capable de lancer le ballon dans les zones profondes. Et je continue sur le même thème avec mon premier joueur. Parce que je trouve le gars qui me surprend peut-être le plus cette saison, c'est Darnell Mooney à Atlanta.
Il est sur ma liste.
C'est vrai. Parce qu'on était victime, je pense, en début de sa carrière d'un poor QB play dans les équipes avec qui il a joué. Cette année, il me surprend vraiment. Je suis rendu que je l'ai dans une ligue, je le start en flex, là, sans aucun doute. C'est même un très bon flex player, selon moi.
Ben, Nico, c'est pour vrai, c'est pas surprenant quand tu regardes ça, il jouait avec les Bears. Ouais. Si je veux dire.
Avec Fields.
C'est ça, sous l'air Fields, où est-ce que Fields lançait des fois 16 passes par match.
Ouais, c'est ça.
C'est, tu sais.
Donc, c'est pas surprenant, mais belle surprise cette saison.
Très belle surprise.
En as-tu un autre rapidement pour moi? Je peux enchaîner, sinon.
Je vais aller avec une personne qu'on dirait que c'est comme évident, là, qui est rendue une superstar, Jahmyr Gibbs. Mais je vais vous dire pourquoi il m'a surpris. L'an passé, il est arrivé dans un duo de running back où est-ce qu'on a vu des glimpse moments of good play.
Ouais.
On a vu un potentiel immense avec quelques jeux explosés. Enfin, un peu comme Bijan, on a vu l'an passé, mais qui prenait pas nécessairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de touch, mais qui avait des jeux explosifs. Et cette année, là, Gibbs, là, dès qu'il touche le ballon, ça peut tourner en TD de Sun Diver.
C'est un game changer.
C'est un game changer. Quand il cote et qu'il plante en gardant sa vitesse.
Il est rapide, il court haut. Là. C'est ça. Il est beau à voir.
Fait qu'il m'a impressionné cette année par le step-up qu'il a pris. Maintenant qu'il joue vraiment là, comme un pro, là. Plus comme une recrue, mais comme un pro.
Exact. Je vais enchaîner, mais il y avait un autre receveur encore. Je pense que c'était un deep sleeper ou peut-être un sleeper en début de saison, mais Ladd McConkey commence à m'impressionner avec les Chargers. La chimie commence à s'installer définitivement avec Justin Herbert et notamment avec sa performance de cette semaine. Commence à m'impressionner. Il doit être dans toutes les équipes, dans n'importe quelle ligue fantasy, sans aucun doute. À partir de maintenant, il est définitivement le wide receiver 1 avec les Chargers.
Je l'ai pick-up dimanche avant les games de 13h, qui traînait ses waivers comme par hasard.
Il traînait là.
Je l'ai ramassé, j'ai pris une chance, drop un 30 points.
Oh, ça, on aime ça quand ça arrive.
Ça va être mon flex cette semaine.
Finir pour les receveurs de mon côté. Josh Downs avec les Colts, en plus avec l'avenue de Joe Flacco, continue à garder ce nom-là en tête.
Oui,
m'a beaucoup impressionné l'année passée. Un autre, on a vu des glimpses. Mais cette année, définitivement, c'est une très belle option d'ailleurs, Pittman Jr. et même avec Pierce qui est le big playmaker là-bas.
Ben, maintenant, à chaque jeu avec ce corps arrière-là, excusez-moi pas à chaque jeu, mais à chaque game, je pense qu'il est allé chercher 80 verges minimum. Là.
Ouais, il est très solide. Oui,
il est super bon stats.
Un bon borderline flex, sinon c'est pas un solid flex play.
Absolument, solid flex play selon moi.
Yes. Est-ce que tu en as d'autres? J'en ai encore deux de mon côté.
J'avais Mooney aussi que tu as nommé.
Ouais.
Mais sinon, je vais y aller avec le bon vieux Kyle Pitts. On a tellement parlé de ça.
On l'a trashé.
On l'a trashé. Ça fait 3 ans qu'on parle de ses déboires, de sa déception fantasy. He's an amazing athlete, but he doesn't do nothing. Hey, ce gars-là a eu des coordonnateurs à l'attaque terribles. Il a joué avec des carrières terribles. Desmond Ridder. Là, en ce moment, il est en train vraiment de s'établir comme une cible de choix pour l'attaque d'Atlanta et j'aime vraiment l'impact.
We
love to see it. Puis on a tant parlé de lui dans le mauvais sens du terme. Maintenant, on va lui donner le congrats, Kyle Pitts. T'es un bon joueur de foot. Content que tu sois dans la ligue, buddy.
Yes. Je reste avec les Titans, mais Tucker Kraft m'impressionne avec les Packers. J'ai réussi à le snatcher début de saison et n'a pas su quitter mon banc. Je le stocke même parfois devant Sam Laporta depuis quelques semaines. Donc Tucker Kraft m'impressionne chez les Packers et je vais terminer avec mon dernier joueur qui est Chuba Hubbard pour les Panthers. Le Autant Canadien. Qu'on dit que les Panthers sont assez décevants cette année à l'attaque. Chuba Hubbard, je m'attendais pas à ça. Il est un solide play et surtout reste en santé cette saison du côté des Panthers. Il est le 11e running back en PPR avec un average de 14,5 points, ce qui est plus qu'acceptable.
Absolument.
Au poste de running back dans votre équipe fantasy.
Un petit mot à dire là-dessus.
Oui.
L'année dernière, j'ai rencontré dans mon programme un fan des Panthers de la Caroline, que je parle presque à tous les jours pendant mes cours et... Il me dit qu'il adore ce que Chuba Hubbard fait, mais insider, il croit que dès que Brooks sera disponible, il prend le rôle de lead back. Immédiatement, même en tant que recrue.
Je pense que tout le monde s'attend également à ça. On a d'ailleurs très hâte de le voir fouler le terrain de la NFL. Jonathan Brooks, cette saison, lui qui revient d'une blessure au ACL, donc une rupture l'année passée en NCAA. De notre côté, ça ferait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui, ouais. Mon cher Rémi. Good job. Ça a bien été, même si on était juste deux. Là, on s'en va grinder nos Mounties de Buenos Aires sur Madden pour le reste de la soirée. Fait qu'il il nous reste juste à vous souhaiter une très belle soirée et une très belle semaine de foot. À la semaine prochaine, à tous.
Ciao, guys.
Kaboom!